Le Seigneur guérit un paralytique en voyant la foi de ceux qui l'amènent. Et il se nomme le Fils de l'homme. C'est sur cette expression que je voudrais attirer votre attention. Le Fils de l'homme. Alors qu'il est en train d'accomplir un miracle, alors qu'il est en train d'en accomplir en guérissant un paralytique, alors qu'il est en train de guérir plus profondément encore ce même paralytique en le guérissant de son péché et de la paralysie spirituelle qui en résulte, en accomplissant ces miracles, il montre qu'il est Dieu Tout-Puissant, qu'il a pouvoir par son Père, il a le pouvoir de guérir et de pardonner. Or, comme les pharisiens ne se manquent pas de lui faire remarquer, seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais précisément, il le fait. Certains ont pris ça pour un blasphème, d'autres ont pris ça pour une révélation. Et nous sommes de ce nombre, bien sûr. Alors qu'il se montre comme Dieu, Fils de Dieu, en même temps, il se nomme Fils de l'homme, pour bien montrer qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Il est né de la Vierge Marie. Il s'est incarné, mais c'est vraiment Dieu incarné, qui est Dieu et homme. Ceci est fondamental dans notre foi et évidemment dans notre pratique, puisque la foi, c'est une pratique, c'est un engagement. Souvent, quand on pense à cette expression du Fils de l'homme, on pense à cette double révélation que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Et on a raison. Cependant, je voudrais vous montrer que cette révélation remonte à beaucoup plus longtemps que ça, beaucoup plus loin que cela. C'était une révélation prophétique faite par le prophète, exprimée par le prophète Daniel. Daniel a une vision de la fin des temps. Et dans la vision de la fin des temps, cette vision que je vais vous lire ensuite, il voit un fils d'homme qui vient apporter le salut et la régénération du monde. Et en reprenant cette expression, vous voyez ce qui est capable, ce que Dieu peut faire, le fils de l'homme, comme le dit le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ se présente, se montre comme celui que le prophète Daniel avait annoncé. Voilà ce que dit le prophète Daniel, chapitre 7. « Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici. » Sachez que, à chaque fois que dans les Saintes Écritures, nous voyons le « et voici », aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, ça veut dire que c'est un oracle. C'est une parole même de Dieu. C'est une parole équivalente aux paroles de la création. Dieu parle et aussitôt cela est. Donc, et voici. Voici ce qui se réalise. Pas simplement voici ce qu'il voit, mais voici qu'en voyant ce qui va suivre, se réalise dans l'Ancien Testament, dans l'ombre seulement, et ça n'apparaîtra dans sa plénitude qu'avec la venue du Christ visiblement dans le monde, mais ça se réalise déjà. Donc, et voici. Sur les nuées du ciel, quand on parle des nuées du ciel, c'est une image, parce que le ciel dont on parle dans les Écritures n'est pas le ciel avec de l'air et des stations spatiales et des fusées ou des avions et des étoiles. Le ciel représente le monde invisible, c'est-à-dire le monde de Dieu, la vie divine, et la gloire qui en rayonne, c'est-à-dire les anges, les archanges et les saints qui l'entourent, qui sont en lui, la gloire divine. Donc, sur les nuées du ciel, autrement dit, dans ce monde céleste, au-dessus des anges, où trône le Père éternel, arrive comme un fils d'homme. Voilà l'expression. Arrive comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours. L'Ancien des Jours, dans ce vocabulaire apocalyptique, selon Daniel, l'Ancien des Jours, c'est la préfiguration, c'est on devine qu'il s'agit du Père éternel. Mais les trois personnes divines dans l'Ancien Testament ne sont pas encore clairement exprimées, clairement définies, simplement en figure, en nombre. Avec le Fils d'homme qui apparaît comme le Fils de l'homme, le même, apparaîtra plus tard en s'incarnant, ils avancent vers l'Ancien des Jours, vers le Père éternel. C'est déjà dans l'Ancien Testament une révélation de ces deux premières personnes de la Sainte Trinité. On le fit approcher. Qui ont certainement le Saint-Esprit. On le fit approcher devant lui, devant le Père éternel. Et lui furent donnés le pouvoir, la gloire, le règne. C'est-à-dire que le Père éternel donne à ce fils d'homme, qu'on pourrait plutôt, dans notre logique à nous, on l'appellerait plutôt fils de Dieu, mais déjà dans l'Ancien Testament, on l'appelle fils d'homme, ce qui annonce qu'effectivement son fils Dieu s'incarnera et deviendra aussi homme. Et lui sont donnés le pouvoir, la gloire et le règne. Trois termes montrant la majesté de Dieu. Cette expression, le pouvoir, la gloire et le règne, vous pouvez remarquer que vous l'entendez plusieurs fois pendant les offices, et notamment pendant la liturgie, comme ekphonèse, comme conclusion des prières les plus solennelles. Et à chaque fois, c'est une allusion à cette vision d'Ézéchiel. On s'adresse donc au Fils de l'homme, c'est-à-dire à Dieu, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité incarnée, auquel on reconnaît les pouvoirs, la majesté que Dieu lui a donnée. Ce pouvoir, cette majesté, qui s'exprime aujourd'hui par la guérison du paralytique et par le pardon de ses péchés, c'est un mot grec qui signifie la liberté totale, la puissance totale de Dieu qu'il exerce avec liberté. C'est-à-dire, rien ne l'arrête, rien ne le retient. Il fait ce que sa volonté veut faire. Rien ne peut s'opposer à cette volonté. Rien ne peut s'opposer à sa création. Et ceci, cette expression du Fils de l'homme, doit nous encourager dans nos propres difficultés, dans nos propres échecs, parce que ça non plus, ça ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Dieu est libre par rapport à ça. Et si nous sommes tous des paralytiques, si nous sommes tous dans notre corps et dans notre âme limités et souvent en situation d'échec individuel, il y a toujours la grâce de Dieu qui nous guérit de notre paralysie, qui nous guérit de notre infirmité spirituel, parce que à lui revient le pouvoir, la gloire et le règne. Je continue la révélation du prophète Daniel. Et tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Vous voyez, parce qu'il lui appartient le pouvoir, la gloire et le règne, la création entière le sert. Et quand on dit que la création sert, ça ne veut pas dire que la création serait en état d'esclavage. Mais servir Dieu, c'est recevoir, accepter librement l'éclat, l'éclat, la majesté, la lumière divine, la recevoir et la restituer à Dieu. C'est comme ça que l'on sert Dieu. Donc à chaque fois que nous entendons parler du Fils de l'homme, à chaque fois nous reconnaissons, si nous avons la foi, nous reconnaissons qu'il est tout puissant, c'est-à-dire qu'il est créateur et recréateur, qu'à chaque fois il nous donne, il nous restitue dans l'état dans lequel il nous avait créé à l'origine. Son empire, continue le prophète Daniel, son empire, c'est un empire éternel qui ne passera pas. Si Dieu n'était pas éternel, il ne serait pas Dieu. Et son empire, c'est-à-dire son action, c'est-à-dire sa volonté créatrice, ne passera pas. Ce que Dieu a décidé, nous on est obligé de faire de l'anthropomorphisme, on est obligé de s'exprimer dans des termes humains. Si ce que Dieu a décidé un jour, si l'on peut dire, mais il est dans l'éternité, donc il n'y a pas de jour pour lui. Mais si ce que Dieu a décidé une fois, c'est valable pour l'éternité entière. Il ne revient pas sur sa décision, puisque justement il est éternel. Et puisqu'il a décidé de nous associer à sa gloire, de faire de nous des serviteurs, compris comme je le disais précédemment, ça rien ne l'effacera. On peut ne pas en ressentir le plaisir, la joie. C'est ça la paralysie spirituelle qui est la nôtre, d'être aveugle par rapport à aveuglé par rapport à ça. Mais la décision que Dieu a prise de nous associer à son pouvoir, à sa gloire et à son règne, ça c'est éternel. Et son règne ne sera pas détruit. Vous voyez ? Son règne ne sera pas détruit, le règne du fils de l'homme. C'est-à-dire que même la puissance, la terrible puissance du diable qui agit à l'extérieur de nous-mêmes et qui agit aussi à l'intérieur de nous-mêmes, hélas, ça ne détruit pas le règne de Dieu. Ça ne détruit pas ce que nous sommes nous-mêmes, ça ne détruit pas le règne auquel il nous a fait participer à la gloire, à laquelle il nous fait participer. Et cette prise de conscience, cet acte de foi, ne peut que nous encourager à l'aimer, c'est-à-dire à accepter la grandeur de cette vocation et d'essayer, dans la mesure du possible, d'essayer d'y communier, d'essayer d'y collaborer. Certes, nous sommes les uns les autres pécheurs, certes nous faisons obstacle par orgueil à cette action-là, mais cet obstacle est un obstacle provisoire parce que Dieu, lui, a décidé de nous accorder le salut. Il va jusqu'à nous envoyer le Fils de l'homme, justement, pour partager notre sort, pour partager notre vie, partager nos drames, de manière à ce que nous partagions de nouveau sa divinité. Quand vous entendez le Fils de l'homme, pensez toujours au prophète Daniel. Et comprenez que En prenant ce titre-là, le Seigneur ne montre pas simplement qu'il s'est incarné, mais il montre que la volonté du Père, la volonté de Dieu, se révélait déjà dans l'Ancien Testament, que c'était déjà la volonté de Dieu que vint sur terre le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Et ainsi, rendons-lui grâce, ainsi, prenons, exerçons le pouvoir qui nous est donné, la gloire dont nous bénéficions et le règne auquel nous participons, prenons cela pour le rayonner davantage, non pas par nos capacités individuelles ou personnelles, mais par notre humble adhésion à la volonté de Dieu. Et lorsque nous avons des difficultés, de quelque ordre qu'elles soient, que nous avons des tentations de désespoir, de découragement, de lassitude, rappelons-nous que ceci n'est que notre participation au pouvoir, la gloire et le règne, lesquels se sont manifestés en plénitude au moment de la crucifixion du Christ. Nous communions au corps et au sang du Christ, nous communions à sa nature divine est associée, il s'associe à la nôtre, et par la communion eucharistique, nous alimentons cette compénétration de nos natures, mais nous communions aussi à son sang. Son sang, c'est sa vie. Et parce que lui a pris notre vie sur ses épaules, sur lui, en lui, ses épaules, c'est encore une image, alors que lui assume nos souffrances, nos tentations, nos désespoirs, nos efforts, il y prend tout ça sur lui de manière à ce que nous participions aussi à sa vie, que nous communions aussi à sa vie. Et sa vie, c'est non seulement ces aspects-là, mais c'est aussi la gloire qui lui vient de par sa nature divine, sa relation avec le Père, la force de l'Esprit Saint. C'est tout cela auquel nous accédons. Donc nos difficultés, nos échecs ne sont que l'occasion qui nous est donnée de nous associer à la vie du Christ, ce qui se traduit, ou ce qui devrait ou doit se traduire pour nous, par une joie qui est une forme de prière, qui est une joie profonde de celui qui a conscience de son état de paralytique, son état de pécheur, mais qui en même temps se réjouit parce qu'au-dessus de lui ou en lui règne un autre qui est le Christ, qui nous unit pour nous faire un en lui, et qui manifeste ainsi sur terre l'union de milliards de personnes en un seul Christ, comme il y a dans les puissances célestes, dans les nuées du ciel, comme disait Daniel tout à l'heure, trois personnes qui font une seule divinité. C'est comme ça que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, ma foi, les difficultés par lesquelles nous passons à un moment ou à l'autre de notre vie, ou toute notre vie, ou sous une forme ou une autre, ces difficultés-là ne sont pas vaines, elles ne sont pas un non-sens, elles ont le sens de notre, et le témoignage, le signe même de notre salut et de la vie éternelle qui nous a été accordée en nous faisant naître, que l'on a perdu par suite de notre péché, mais qu'on retrouve par la résurrection du Fils de l'homme.